pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par L'Incipit, la première phrase d'un roman. J'ai choisi la première phrase d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Rarement une première phrase n'aura à ce point résumé si parfaitement tout un roman. Orgueil et Préjugés, donc, c'est à relire. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez Sylvain Tesson tout à l'heure. Nous partirons visiter sa bibliothèque, tout un voyage évidemment.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Vous publiez « Otage » avec un S chez Jean-Claude Lattès, l'histoire de Sylvie. Sylvie Meyer, 53 ans, deux enfants, ouvrière à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Ouvrière, mais ouvrière plus, elle est passée par tous les postes, elle a la confiance des autres employés, mais aussi de son patron, Victor Andrieux. Elle mène une vie normale, pas dingue, sans trop de rebondissements ni d'aventures, mais bon, sans trop de drames non plus. Elle parlera plus tard de bonheur médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire, bonheur médiocre, Nina Bouraoui? C'est terrible, cette expression.
Ah, c'est un bonheur qui ne fait pas de bruit, qui protège, parce que c'est le bonheur le plus primaire, c'est celui de vivre simplement. Quand je dis simplement, ce n'est pas de façon simple économique, mais simplement, c'est exercer le métier de vivre. C'est ça, le bonheur simple, c'est peut-être survivre. Parce qu'elle est, si otage est au pluriel, c'est qu'elle est d'abord otage d'un chagrin amoureux.
Mais il y a le bonheur simple des philosophes. Là, c'est un bonheur médiocre.
Oui, c'est vrai. Il y a une forme de médiocrité parce qu'il y a un renoncement à l'amour, un renoncement au désir, un renoncement à l'espérance. Mais il y a quand même, elle a une certaine ligne de conduite, je trouve. Son salut, c'est dans son travail. C'est ainsi qu'elle s'équilibre. Son devoir, bien travailler, c'est la meilleure des ouvrières. Elle est déléguée syndicale, elle est le bras droit et après armé de son patron.
Voilà, on va y venir. Parce que justement, un jour, son mari la quitte. Du jour au lendemain, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de scène. Il dit juste « je m'en vais » et terminé. Et elle, elle reprend sa vie, sa routine, son bonheur médiocre. En tout cas, elle essaye. Elle fait comme si de rien n'était.
Oui, elle parle de... Elle évoque le caillou dans la chaussure qui fait mal au début et puis qu'elle oublie. Parce que c'est une femme qui est condamnée et vouée au silence. Par son adolescence, sa jeunesse, par une sorte de violence ancestrale, primitive, qui déclenchera une autre violence.
Et évidemment, c'est pas aussi simple, parce que malgré elle, elle commence à se déliter intérieurement, et un jour, donc, Victor Andrieux, son patron, la convoque. Il lui explique que c'est la crise, tout ça, que c'est la faute à personne, tout ça, mais bref, il veut licencier, et il demande à Sylvie de constituer des listes de ceux qui sont moins motivés, qui arrivent un peu plus en retard, etc. C'est d'une perversion sans nom, mais ce qui est étrange, c'est que Sylvie s'exécute.
Oui, ces listes s'appellent des viviers. L'expression oui, des viviers. Est assez terrifiante, puisqu'on imagine ce qui peut grouiller dans des viviers et comment on les sépare. Oui, elle s'exécute parce que c'est une femme qui est totalement investie dans son entreprise et qui est droite. Mais elle est tellement droite que, justement, établir des listes, bien le faire, c'est trahir sa morale, puisqu'elle est très proche de ses abeilles, les ouvrières, elle les appelle ses petites abeilles. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a transgresser sa parole, son honnêteté, sa gentillesse, sa fidélité. Et cela va créer une sorte d'explosion en elle et un désir de se venger, un désir de faire très peur à son patron, un désir de changer justement le camp de la peur. Lui, le patron, celui qui sait, celui qui est instruit, celui qui a le pouvoir, va devoir payer sa volonté d'avoir presque sali la conscience et la morale de Sylvie Meyer.
On va arriver à la rupture, justement, mais elle le fait aussi, j'ai l'impression, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le choix, en fait. Elle est enfermée et elle a l'impression de ne pas avoir le choix des itinéraires de sa vie.
C'est une femme qui est prise en otage. Elle est en otage de ses peurs, elle est en otage de son, prise en otage par son existence, je l'ai dit, par la fin de son amour. Et puis aussi par quelque chose de plus de plus intrusif, permissif, elle est peut-être l'otage d'une société qui n'est pas douce avec ce que l'on nomme les invisibles, ce que l'on nomme les petites gens, ce que l'on nomme la classe ouvrière. Elle est otage de la violence, de l'économie, de ce monde écrasant, de ce monde des patrons. Et elle est otage de sa jeunesse parce que aussi, ce livre, bizarrement, même s'il s'éloigne de l'autobiographie qui était plutôt le genre de livre que j'écrivais, il rejoint les thèmes centraux et le thème central de la liberté. En fait, le destin de Sylvie Meyer, sa narration est une question sur la liberté des hommes et des femmes. Est-ce que nous sommes libres ou alors est-ce que nous ne sommes pas tous prisonniers de notre passé, de notre histoire, de ce qui nous a précédés et des forces de l'inconscient ?
Et précisément, un jour, elle décide de récupérer sa liberté et elle s'échappe littéralement de sa vie. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin, matin de novembre, et elle prend sa voiture. Mais au lieu d'aller vers la Cagex, elle prend la direction opposée. Et là, c'est le bonheur. Ça à la radio, cette chanson-là.
Oui, cette chanson, la chanson de son enfance, puisque en fait la misère amoureuse était déjà là. Elle voyait ses parents dans cette voiture, ils partaient à la mer et ses parents faisaient semblant de s'aimer, faisaient semblant d'un bonheur familial. Donc elle est déjà, c'est ce que je disais, nous ne sommes pas libres, nous sommes aussi dépendants de l'histoire des autres, de ceux qui nous ont élevés, instruits, de ceux qui nous ont montré le bon exemple ou là le mauvais exemple de l'amour impossible.
Mais n'empêche, c'est un moment de grâce un peu pour elle quand elle écoute cette chanson.
Ah oui, c'est fabuleux.
Elle est sur la route avec
cette
musique. Bien sûr,
mais moi je suis assez fascinée par justement la disparition. Comment on peut s'extraire d'une société ? On a tous eu, parfois, on a tous été traversés par un désir d'effacement, par un désir de claquage de porte. Alors, soit on part acheter des allumettes et puis on ne revient plus, ou soit on commet un acte délictuel, ou soit aussi on peut prendre sa voiture sans passer par la case allumettes. Et j'avais beaucoup pensé, j'avais cette photographie de l'affiche du film d'Emmanuel Berco, Elle s'en va, avec Catherine Deneuve. Et je trouve, souvent ce sont les hommes qui partent. C'est rare que ce soit les femmes, parce que les femmes sont attachées au foyer, la famille, les enfants... et je trouvais que ça lui donnait encore plus de virilité à cette héroïne. Elle va partir du réel, elle va partir de la normalité, elle va partir de son statut de femme. Et étrangement, elle va retrouver sa liberté. En s'extrayant totalement, elle va retrouver une forme de liberté parce qu'elle va se rassembler et elle va peut-être se pardonner de sa jeunesse meurtrie.
Alors ne vous échappez pas tout de suite, Nina Bouraoui. Dans un instant, nous ferons face avec Sylvie aux conséquences de son retour à la liberté.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, Nina Bouraoui est notre invitée aujourd'hui. Elle signe « Otage » chez Jean-Claude Lattès, l'histoire de Sylvie Meyer, 53 ans, deux enfants, ouvrière à la Cagex. Elle décide un jour de se libérer de tout, alors elle part. Mais elle revient ensuite à la Cagex et là, elle va franchir les lignes de la loi en l'occurrence.
Oui, elle va commettre un acte délictueux qui peut être dangereux. Est-ce qu'elle ira... Elle va aller jusqu'à l'extrême limite parce que même dans le drame, même dans la tragédie, même dans la violence, Sylvie Meyer garde une morale et garde une bonté. C'est ça qui est très attachant chez cette femme. Ce n'est pas une victime. C'est une femme qui est quand même traversée par la poésie. Pour elle, il y aura toujours le vent dans les arbres, le bleu du ciel, le souvenir d'un mariage heureux, et puis tout d'un coup assombri par une tache de cerise sur sa robe de mariée qui lui rappellera, qui la reconnectera à un souvenir tragique de sa prime adolescence. Mmh.
Oui, ça on comprend plus tard, mais au début, quand il y a la scène de ce mariage avec son mari, donc qu'il y a cette tache de cerise, on se dit bah, « c'est pas grave, arrête !» Parce qu'elle s'en fait vraiment une montagne, quoi. Et c'est ça, en fait, ce livre, c'est qu'on comprend tout à la fin.
Oui, parce qu'elle elle commence en évoquant son absence de violence, son absence de violence interne, ou son absence d'expérience avec la violence. Et en fait, c'est une femme aussi. Et c'est pour ça que le livre est assez féministe et complètement, et que c'est aussi la voix des femmes. Ce livre, il explique comment le silence vous enterre, comment le silence vous empêche d'aimer, vous empêche de vivre, vous empêche d'être heureux, comment la parole est libératrice, comment soudain... cette voix qui va raconter la violence, justement, lorsqu'elle va dire « mais non, c'est faux, j'ai été confrontée à la violence, j'ai été exposée ». Et c'était aussi expliqué comment une violence primitive, ancestrale, va être réactivée par une nouvelle violence. Comment la violence sociale, la violence de son acte, va la ramener sur le territoire du souvenir, du traumatisme.
Alors moi, ça m'a fait penser à un film, Chute libre, avec Michael Douglas, l'histoire d'un type normal. Un jour, il est dans les bouchons et il craque et il part pour une balade mortelle dans les rues et il commence par commander un petit déjeuner dans un fast-food, sauf qu'il est 11h32 et que le restaurant ne sert plus de petit déjeuner après 11h30. Et bien même ça, il ne supporte plus.
Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Eric. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms, moi, je vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Sheila, comme si on était aux alcooliques anonymes. J'ai pas envie d'être votre pote, j'ai juste envie d'un petit déjeuner.
Vous pouvez dire mademoiselle Folsen, si vous préférez.
Sheila, nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30. Notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner.
Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit déjeuner.
Oui, mais vous m'envoyez désolé.
Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi.
Non, pas de panique.
Et voilà, et c'est que le début, mais il y a vraiment de ça. Enfin, c'est une partie de votre
livre.
Vrai,
c'est-à-dire
c'est le silence, comme ça, qui s'est installé dans la vie d'un homme très normal, très comme il faut, etc. Puis tout d'un coup, craque et va très très loin.
Mais méfions-nous du silence.
Voilà.
Et méfions-nous des silencieux.
Il y a la question du... pouvoir aussi dans ce livre, je trouve. À un moment, donc, quand Victor Andrieux lui demande de faire ses listes et tout ça, elle se rend compte qu'elle s'exécute aussi parce que ça lui donne un pouvoir d'une certaine manière. Et il y a cette frustration aussi, on sent de ne pas avoir de pouvoir en fait sur rien.
Ah oui, c'est son grand drame. Elle n'a pas eu de pouvoir sur sa mémoire, sur son passé, sur ce qui est arrivé. Et puis elle n'a pas de pouvoir. Alors, même si elle a une place très. Très importante à la CAGEX, mais elle fait bien une distinction entre le patron et le travailleur. Et en cela, c'est un livre aussi social, c'est-à-dire de quel côté est le pouvoir, pourquoi il est toujours du même côté. Et elle en veut à son patron parce qu'elle estime que comme il est patron, il est plus instruit et que l'instruction ne devrait pas laisser la possibilité au mépris de l'autre, à la manipulation, à la méchanceté, ou à la saloperie, parce qu'elle le traite de salaud. Donc c'est vrai que le rapport de force, il est toujours omniprésent, et elle veut prendre le pouvoir. Alors elle le prend d'une façon maladroite, mais Sylvie Meyer, je pense, a vraiment le pouvoir lorsqu'elle est écartée de la société, lorsqu'elle se retrouve, lorsqu'elle accepte la violence dont elle parle au tout début.
Et à la fin aussi, il y a l'acceptation et le confort d'être, justement, d'être guidée. À un moment dans le livre, elle est empêchée physiquement. On lui dit d'aller là et de se mettre là et de se poser là. Et elle se dit, c'est quand même agréable d'être prise en charge.
Mais je pense qu'elle recouvre son statut d'enfant. Elle le retrouve. Être un enfant, c'est encore avoir le bénéfice, normalement, de l'innocence, de la tranquillité. Et de la sécurité. Alors je crois que peut-être qu'elle avait besoin de quitter son âge adulte trop difficile, trop invasif, trop serré pour cet être si doux finalement, parce que c'est quelqu'un d'assez doux. D'ailleurs, elle n'ira peut-être pas au bout de son acte.
Et je voulais vous poser la question aussi de la mise en forme de votre récit, c'est-à-dire que c'est Sylvie qui parle, on est dans sa tête en fait, et il n'y a jamais de dialogue. C'est-à-dire que les fois où quelqu'un prend la parole, c'est lui qui parle tout seul, sur plusieurs lignes, avec une typographie différente, et puis ensuite c'est Sylvie qui reprend son récit. Pourquoi vous l'avez construit comme ça ?
C'est vrai que c'est une voix intérieure, ce n'est pas un réquisitoire, c'est une sorte d'élan. Le livre a été écrit fin 2014 et il a été joué sur scène.
C'était une pièce au départ.
Voilà. En fait, c'était un désir du Paris des femmes, qui est un festival dédié aux auteurs féminins. Anne Rothenberg s'en occupe depuis quelques années, aujourd'hui toute seule. Et en fait, quand ces femmes du Paris des femmes m'ont demandé d'écrire une pièce de théâtre d'une demi-heure, j'étais un peu embêtée parce que justement, les dialogues, ce n'est pas toujours mon fort. Et je me suis dit, faisons ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire des sortes de récits comme ça, un peu crâniens, à l'intérieur, avec la violence de cette femme. Je trouvais que ça passait assez bien. Et puis, la pièce a été jouée en 2015. Après, elle a été lue à Beaulieu, chez Agnès Varda, au Théâtre de Vichy. Et on me demandait à chaque fois d'agrandir cette pièce. Et puis, en 2016, elle est devenue... pour des raisons un peu contractuelles, un peu plus romancées. Et puis elle a attendu. Et ce n'est pas du tout par opportunisme que nous la sortons aujourd'hui, parce qu'un livre était écrit et qu'il fallait qu'il sorte. Et c'est assez étrange parce qu'en 2014, certainement que tout était assez suffisamment poreux pour que je le ressente, j'ai été totalement fascinée par, et à la fois attristée par le silence des femmes. Et par la violence au travail.
Et je rappelle le titre, Otage au pluriel, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup Nina Bouraoui.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres. Virginie nous appelle de Toulouse aujourd'hui pour nous parler du livre de Franck Bouys, Né d'aucune femme. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est livre.
Chaque semaine, je vous demande quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui qui vous a changé, que vous offrez à tout le monde, bref, votre livre préféré. Cette semaine, c'est donc Virginie qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelé de Toulouse. Donc, vous vouliez nous parler de Franck Bouys et de son dernier livre, Né d'aucune femme. Énorme succès l'année dernière. Vous nous rappelez de quoi ça parle ?
Alors, c'est toujours difficile parce que j'ai un peu peur de spoiler l'histoire à chaque fois, mais je dirais que ça commence fort parce qu'on a tout de suite un curé qui doit bénir un corps, le corps d'une femme qui sort donc d'un asile, et lors d'une confession, on lui apprend qu'il faut absolument récupérer des carnets qui sont cachés sous la robe de cette fameuse Rose. Et c'est là que tout commence et on va donc plonger dans l'univers de Rose grâce à ses écrits que Puré a récupérés.
C'est le portrait d'une femme. Franck Bouys, il a écrit du polar. Là, ce n'est pas vraiment du polar. Ce n'est pas gay, mais enfin, c'est autre chose.
Oui, tout à fait. Je trouve qu'on est en plein cœur de la nature et de la nature humaine. J'ai l'impression que Franck Bouys a réussi à nous mettre carrément dans l'univers de ses personnages. C'est presque un film qui... Quand on lit, c'est un film. Ça, c'est l'impression que j'ai. Et on est en plein cœur de la nature humaine. Je dirais les belles choses de cette nature humaine et aussi les pires choses qu'elle peut faire.
Moi, j'ai toujours remarqué que Franck Bouys, il sait vraiment très bien décrire à la fois les paysages et les âmes, en fait,
oui, ces personnages. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est pour ça. C'est une écriture un peu, je dirais, terreuse. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai vraiment l'impression que, voilà, que quand le personnage marche, on se prend la poussière de l'écurie en pleine tête. On sent les odeurs, on sent tout ce qui est suggéré. Franck Bouys, il est quand même fort parce qu'avec très peu de mots, il arrive à nous transporter. C'est vraiment quelque chose qui... Je crois que quelqu'un disait, je crois que c'est une journaliste de Marianne, qui dit c'est un sculpteur hors pair. Et c'est vrai parce qu'en fait, il nous donne l'impression que les mots sont sculptés par Franck Bouys. C'est bluffant, c'est-à-dire que quand on lit un mot, il nous donne autre chose à penser. Et je trouve ça vraiment bluffant.
On ne peut pas vraiment raconter l'histoire, hein. Faut rester succinct, effectivement. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre sensation quand vous avez lu la dernière page et vous avez refermé le livre ?
Alors, la dernière page, en gros, c'est... tu m'as eu, quoi. Franck, je suis désolée de dire ça, mais c'est un salaud, c'est un beau salaud. C'est-à-dire qu'en fait, tout le long du livre, on se dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais en fait, non, on ne comprend pas, on comprend vraiment à la fin. Et ça, c'est vraiment un bouquin incroyable. C'est à la fin qu'on comprend. Et on se dit, il faut absolument que je le relise maintenant que j'ai compris. Parce qu'on va revoir les choses différemment. Et ce qui est fabuleux chez Franck Bouy, c'est qu'il arrive à nous faire vivre une scène avec plusieurs points de vue. On a l'impression qu'il est un réalisateur. Et nous, quand on a déjà vu la scène avec un des personnages et qu'on la revit avec un autre personnage, je crois de mémoire c'est une scène dans les tables qui m'avait marqué, eh bien on a envie de dire au personnage, attention derrière toi il y a quelqu'un, mais en fait on n'a pas cette liberté. Franck Bouy nous torture, et moi je trouve ça vraiment vraiment passionnant.
Et donc vous avez eu cette sensation géniale, vous avez fermé le livre et puis après vous ne l'avez pas posé tout de suite, vous avez re-regardé la couverture, feuilleté encore quelques pages comme ça. Et vous avez pris quelques moments de méditation, quoi.
Ah oui, absolument. C'est comme quand on sort d'un film et du cinéma. Vous savez, la salle de cinéma, on est dans la rue et on n'est pas encore sorti de ce film. Et bien là, c'est pareil. Oui, ferme le bouquin, on ne se dit pas, bon, ben c'est bon, je passe à autre chose. C'est impossible. Et vraiment, Franck nous accroche, quoi. Nous accroche à ses mots, à ses personnages. Et c'est quand même très dur, très noir, très sombre. Et donc, du coup, on s'imagine... encore ce personnage qui rôde dans notre tête. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bouquin.
C'est ça, les grands bouquins. On a ce petit rituel à la fin, puis il nous habite longtemps, en fait.
Oui, c'est presque... j'imagine des conversations où dans la rue, on dit « Ah ouais, je me souviens de cette histoire. Ouais. » Et en fait, on dit « Mais non, je ne l'ai pas vécu. Ce n'est pas des amis, c'est en fait un livre. » Voilà, ça rentre dans notre quotidien. Il y a une espèce de cruauté dans ces livres qui nous prend. Il y a la cruauté de la nécessité. Par exemple, pour le père de Rose, hein, Onésime, qui fait des choses terribles, mais par nécessité, il y a la cruauté de plaisir avec ce maître qui va donc... faire du mal, avec beaucoup de sadisme, faire du mal à Rose. Et puis il y a la cruauté du non-dit aussi. Tous les gens sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, mais rien ne se dit. Donc finalement, nous, lecteurs, on est aussi paumés. Et à la fin, dernière page, Franck Bouy nous révèle tout.
Et puis vous nous en parlez avec l'accent de Toulouse, avec le Rose. Hein
Rose.
Vous vous souvenez comment vous l'avez découvert ? C'était dans une librairie, dans la presse, un copain, comment ça s'est passé ?
Je l'ai découvert dans une toute petite librairie. Alors, je ne sais pas si je peux la nommer.
Ah bah si, allez-y.
Oui, c'est le Café des Plumes de Toulouse. C'est un café-librairie et la libraire était vraiment passionnée par ce bouquin. Et j'ai dit, bon, bah, si tu l'aimes, je vais l'aimer. Et donc du coup, je l'ai pris et c'est vrai que c'est vraiment un livre... Je ne sais pas, c'est un livre qu'il faut absolument poser dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin pour retomber dessus. Ce n'est pas un bouquin qui doit trôner dans une bibliothèque. Ouais,
bonne
ouais,
idée.
Vraiment, voilà.
Et on ne dira jamais assez l'utilité des libraires. Franck Bouy, donc, né d'aucune femme. Merci beaucoup, Virginie.
Je vous en prie.
Europe 1.
Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons toutes vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque de Sylvain Tesson.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Nous partons visiter la bibliothèque de Sylvain Tesson. Évidemment, on va voyager. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, à Paris, dans un petit appartement. Alors, qui est celui de Sylvain Tesson, sans conteste, puisque quand on arrive, il y a une petite mezzanine avec tout un attirail d'alpinistes. Et puis, il y a quelques carabines dans un coin. Il y a des objets ramenés sans doute de voyage un peu partout. C'est l'idée que je m'en faisais, hein, honnêtement.
Je ne sais pas si ça correspond à l'idée d'un appartement de voyageur, mais oui, c'est comme une malle dans laquelle j'habiterai. J'habite dans mes valises et à l'intérieur de mes valises, je fais mes sacs.
Et dans vos valises, vous mettez toujours d'ailleurs beaucoup de livres. Et là, il y a des murs de livres. Et notamment, il y a deux piolets plantés dans la bibliothèque. Il y a une belle métaphore quand même là.
c'est les falaises de papier.
Alors, comment elle est organisée, cette bibliothèque? Je devrais dire ces bibliothèques, parce qu'il y en a une qui monte jusqu'au plafond, je ne sais même pas comment on peut l'atteindre. Et puis après, il y en a un peu partout, des livres. Comment c'est organisé?
Justement, mon grand malheur est que ce n'est pas organisé, et j'ai succombé à l'une des grandes défaites de l'homme. Quand on vieillit, on est confronté à un certain nombre de problèmes. Il y a la cataracte, après il y a la prostate. Et juste avant cet écroulement général, il y a un phénomène qui s'appelle la double rangée. C'est-à-dire que vous avez une rangée de livres dans votre bibliothèque.
Ah bah,
et puis ensuite, vous couvrez la rangée du fond par une nouvelle rangée. Et à ce moment-là, vous dites adieu à la rangée de derrière qui est masquée. Vous pensez bêtement, vous avez l'illusion de penser que vous continuerez à lire ou à recourir à vos livres qui sont au fond, mais en fait,
que vous saurez les retrouver, mais en fait, non. C'est comme ça qu'on rachète beaucoup de livres, tant mieux d'une certaine manière.
Vous les oubliez. Mais alors, il n'y a pas vraiment d'organisation. De toute façon, de deux choses l'une. Soit vous êtes un être très structuré et très rationnel et vous faites une organisation par ordre alphabétique, mais moi, j'y crois pas trop. Parce que comme je consulte beaucoup mes livres, nous avons, vous savez, il y a une très ancienne technologie qui est un peu oubliée, mais qui s'appelle le cerveau humain, qui est un moteur de recherche. Et alors, vous allez puiser dans vos livres quand vous cherchez une référence, une citation ou une idée. Et alors, à ce moment-là, l'organisation par ordre alphabétique explose très vite. Donc, moi, je n'y crois pas. Alors, c'est plutôt une vague d'organisation thématique. J'ai la poésie, j'ai le voyage, j'ai les livres de littérature de poche, j'ai les livres d'art, et c'est plutôt comme ça que je circule dans ma bibliothèque.
Parce que là, par hasard, on commence cette visite devant les livres qu'on imagine être chez Sylvain Tesson, c'est-à-dire les livres de voyage et les livres d'aventure. Et on trouve là, par exemple, Lewis et Clark, qui sont les deux explorateurs du Far West, de l'ouest des États-Unis, de la destinée manifeste des États-Unis. C'est les aventuriers par essence, quoi.
Entre autres, Lewis et Clark et Jack London et la littérature du Grand Ouest, c'est une des grandes occupations de ma bibliothèque, c'est la rencontre de la littérature et du voyage. Ça occupe des rayonnages. J'ai la poésie, qui est une des îles de mon archipel, parce qu'une bibliothèque, c'est comme un archipel avec des îles partout. J'ai la poésie. J'ai le voyage et j'ai un rayon qui est très important pour moi, qui n'est pas vraiment de la littérature, mais quoi qu'il y a des perles à l'intérieur, c'est le rayon purement montagne, avec les topos d'escalade, les guides, la géographie, les cartes.
La chaîne du Mont Blanc.
Les récits d'alpinisme. Et puis j'ai les livres d'art. Alors le rapport à une bibliothèque d'art, il est très épisodique, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous avez un moment de baisse de régime psychique ou moral, mais vous tirez un livre d'art et vous regardez, vous faites un voyage merveilleux par les images, quoi. Alors je sors par exemple le cabinet secret de Rodin, le musée secret de Rodin, avec tous les érotiques de Rodin que Albin Michel a publié il y a quelques années. Et là, c'est l'enchantement, quoi. C'est un voyage.
Mais vous avez des beaux livres sur l'Himalaya aussi, ou Refuge de montagne. Vous pouvez les regarder, ces livres-là, ces photos-là? C'est pas décevant pour vous, vous qui les avez vus, tous ces paysages?
Mais non, au contraire, parce que je crois que tout le bonheur du livre et de la lecture, c'est de prolonger l'expérience que vous avez faite sur un autre plan. Vous avez fait une expérience sensorielle et sensible, et vous avez été heureux sur les plateaux du Tibet, et tout à coup, vous tirez un livre qui prolonge ce que vous avez vécu. Par exemple, là, je prendrai Jack London, Une fille des neiges, et ça me rappellera mes voyages dans le Grand Nord. Je prends les nouvelles de Philippe K. Dick, qui ont été portées au cinéma, et ça me donne l'idée qu'on est très, très heureux de vivre dans notre présent et qu'il ne faut surtout pas que le temps passe parce que l'avenir ne présage rien de bon.
Philippe K. Dick, c'est le grand auteur de science-fiction. Là, vous avez Total Recall, donc la nouvelle adaptée au cinéma avec Arnold Schwarzenegger et qui dépeint un futur, effectivement.
Oui, le cauchemar qui arrive. Et en fait,
c'est une réflexion sur le présent, finalement.
Et c'est justement pour ça que le livre vous permet de balancer entre ce qu'annonce l'avenir et qui n'est pas très heureux et le présent. D'où le livre, la beauté du livre de voyage, c'est de continuer à déployer devant vous une carte du présent et du réel qui continue à vous enchanter.
Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a donné envie de mener la vie que vous menez aujourd'hui?
Moi, je suis venu à la lecture assez tardivement et je ne peux pas dire que ma vie de voyageur soit née d'un livre. C'est pas une lecture qui m'a jeté sur les routes. J'ai rencontré la littérature alors que j'étais déjà en mouvement et la littérature m'a confirmé dans l'idée que la route, le mouvement, l'aventure et le voyage étaient une source d'inspiration qui après trouvait son écho et sa résonance dans la littérature. Par exemple, j'ai là un livre auquel je recours souvent, je m'y replonge souvent, c'est « Les sept piliers de la sagesse » de Laurence d'Arabie. Je l'ai dans la très belle édition de Payot.
Il a été lu et relu et relu. Hein.
Oui, et ça, c'est un livre qui me plaît parce que Laurence d'Arabie explique combien le mouvement est à la fois une source d'inspiration, mais en même temps une malédiction, une morsure, une brûlure qui finit par vous emporter, un peu comme une maladie dont on ne se guérit pas et que vous finissez par ne vous calmer que lorsque vous êtes en mouvement.
Je vois pour la deuxième fois, mais on est dans une autre partie de la bibliothèque, encore un exemplaire de Lord Jim de Joseph Conrad. Lord Jim, c'est un roman, c'est l'histoire d'un marin qui, un soir de tempête, décide d'évacuer un bateau avec les autres membres d'équipage, laissant quelques centaines de passagers à bord. Finalement, le bateau ne coulera pas, mais lui va vivre dans la honte et fuir sa honte toute sa vie. Pourquoi vous avez deux fois Lord Jim ? C'est un livre qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, parce que parfois, on voyage pour essayer de semer sa mauvaise conscience. Et je crois que c'est un thème conradien, éminemment conradien, qu'on soit au cœur des ténèbres ou qu'on soit sur les mers. Conrad sait que l'homme porte sa croix, quelle qu'elle soit. Celle de Lord Jim est terrible, parce qu'il pense avoir commis un forfait dramatique. Et je crois que beaucoup de voyageurs sont des gens qui essayent de se semer eux-mêmes.
À côté, vous avez en version poche Wild Idea de Dan O'Brien, qui est un type qui vit dans le Dakota du Sud, qui élève des bisons et qui est en même temps écrivain et qui parle des bisons, de son rapport à la nature. Vous l'avez déjà rencontré, Dan O'Brien ?
Jamais, mais j'ai lu toute sa littérature, tout ce qui est traduit en français, parce que je lis très mal les langues étrangères, et l'anglais en particulier. Mais j'aime surtout les bisons de Brockenhart. Il a les bisons du cœur brisé. Il a réintroduit des bisons dans la Middle West américaine. Et il s'est aperçu que en réintroduisant les bisons, il recréait totalement l'écosystème de la grande prairie et il ramenait une climatologie beaucoup plus vivable que celle des territoires complètement déserts. Et c'est la preuve, c'est une très belle confirmation incarnée que la nature est un jeu d'équilibre, un édifice extrêmement minutieux où le ciel, la terre, les plantes et les bêtes se répondent.
Il y a les piolets là qui sont... J'ai envie de... Je peux en prendre un ?
Oui, prenez-les.
J'en ai jamais touché.
C'est un piolet russe très léger.
C'est hyper léger.
On peut imaginer qu'on escalade comme ça les falaises de l'Ivre.
Donc celui-ci vous a sauvé la vie plusieurs fois ?
Oui, ça c'est un piolet russe très léger. D'ailleurs, il est planté à côté du rayonnage consacré à Ernst Jünger, l'écrivain allemand qui a écrit « Les falaises de marbre ». Sur les falaises de marbre, alors j'imagine que les falaises de marbre se transforment en falaises de papier.
Et c'est quoi le livre sur les falaises de marbre ?
C'est un livre de cet allemand qui a été écrit en 1938 et qui était un livre très symbolique, très onirique et qui est un livre qui parle de la progression de l'autorité, de la dictature qui vient asservir les hommes. Et en fait, c'était une préfiguration de ce qui était en train de se passer en Allemagne entre les années 30 et les années 40, c'est-à-dire la montée du nazisme. Et Ernst Jünger échafaude l'idée qu'on peut se retirer de cette politique envahissante en essayant de s'inventer une vie en retrait. C'est une sorte d'ode au voyage immobile.
On a parlé beaucoup de livres de voyage et de nature, mais il y a aussi des romans purs, du Cocteau, du Paul Morand, il y a Kerouac, etc. Bon, c'est aussi un roman de voyage, Kerouac, mais je veux dire, il y a Tchekhov, il y a des classiques, quoi. C'est ça, en fait, ce qui vous plaît dans la littérature, c'est ce mélange de voyage, mais avec cette poésie des grands auteurs.
Bien sûr, c'est la raison pour laquelle une bibliothèque, pour peu qu'on l'organise relativement thématiquement, elle apparaît comme un manteau d'arlequin. En fait, vous avez des couleurs dans vos rayonnages qui vous renvoient, qui font référence à des genres différents. Alors là, vous venez de citer des auteurs très classiques. Si on veut franchir un pas encore de plus dans une certaine solennité classique, il y a même ici un rayonnage, un double rayonnage, hélas, de Pléiades.
Pléiade.
Et les Pléiades, de temps en temps, vous tirez la correspondance de Flaubert ou une tragédie de Shakespeare ou les poésies païennes de Fernando Pessoa. Et c'est merveilleux. Et puis après, vous balayez de quelques centimètres, votre œil se déplace vers la gauche. Et à ce moment-là, il y a les livres des éditions Guérin, des livres purement de montagne, avec l'épopée des pionniers de l'escalade dans le Verdon, une biographie de Patrick Hedlinger, le grand grimpeur des années 80, et puis des Himalayistes qui montent à 8000 mètres d'altitude.
Dans le générique de l'émission, on a une archive de Renaud, le chanteur, qui dit « Ouvrir un livre, c'est voyager pour pas un rond ». J'ai envie de vous poser la question à vous, parce que c'est un lieu commun un peu aussi parfois de dire qu'on s'évade par les livres, etc. Mais c'est en même temps complètement vrai. Comment vous le percevez ça? Est-ce que vous le percevez ce voyage par la lecture?
C'est plus que ça. C'est, non seulement c'est voyager pour pas un rond, mais c'est ne jamais être seul, parce que c'est des compagnons merveilleux. D'abord, ils tiennent leur rôle, ils tiennent leur place, ils ne bougent pas. Ils ne vous accablent pas, ils ne sont pas bavards, et ils sont toujours là quand vous en avez besoin. C'est le contraire des hommes, en fait. C'est fiable, un livre. C'est vraiment une amitié fiable. Si jamais j'ai un léger sentiment de solitude, je prends Les femmes d'aventure de Catherine Riverzi, et là, j'ai un livre extraordinaire sur des aventurières. J'en ai connu certaines, de Catherine d'Estivelle à Alexandra David-Nel, que je n'ai pas connue, parce qu'elle était une aventurière des années 1920, jusqu'à Chantal Mauduit, l'himalayiste que j'ai connue. Et c'est ça qui est merveilleux. Bien sûr, il a raison, Renaud. On voyage et on n'est pas seul.
Et est-ce qu'on peut partir à l'aventure, justement, parce que je vois qu'il y a une mezzanine, et surtout, depuis le salon, on voit des livres inaccessibles à 3 mètres de hauteur.
Oui, les livres inaccessibles, c'est des livres beaucoup sur le rêve, les symboles, les superstitions, le mystère. J'ai les guides de la collection Chou, qui étaient des guides extraordinaires des années 70, le guide de la Provence mystérieuse, le guide de la France mystérieuse, le guide de la Bourgogne mystérieuse. Vous ouvrez ces guides. Et c'est un peu une analogie de ce qu'on vit quand on fait des affûts animaliers. Vous vous apercevez que ce que vous donne à voir le réel n'est pas ce qu'il y a uniquement sous vos yeux. Il y a des arrière-mondes, des arrière-plans qui vous échappent, mais il faut avoir les bons guides. Le dictionnaire des symboles, chez Bouquin, dans la collection de Lafon, c'est un dictionnaire extraordinaire, parce que dès que vous êtes confronté à un phénomène, dès que vous avez une rencontre, dès que vous voyez une scène de la vie courante, vous regardez votre dictionnaire des symboles et ça vous entraîne dans un arrière-monde.
Signification. Merci beaucoup, Sylvain Descens.
Merci.
Europe 1.
De retour en studio et merci à Thomas Roussel pour la prise de son. Restez là, les libraires de La Voix et Livre ont médité toute la semaine dernière pour vous proposer les meilleurs romans. Ils vont essayer de vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre, il est l'heure de flâner dans les librairies tranquillement. Et aujourd'hui, avec nous, pour nous guider dans les rayonnages, Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris et Thibaut Raden, librairie L'Écriture. C'est à Vaucresson. Salut les libraires.
Bonjour. Salut Nicolas. Nicolas.
On commence par Vaucresson, tiens, Thibaut Raden.
Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD de Étienne Appert. Ça s'appelle Rivière d'encre. C'est à la boîte à bulles et c'est une BD qui est géniale. En fait, ça commence par une question toute simple d'un enfant qui dit « Pourquoi tu dessines ?» Et à partir de là, Étienne Appert qui se met en scène, il se dit « Il répond tout de suite, j'en sais rien en fait, pourquoi je dessine ? J'ai pas vraiment réfléchi. » Et il décide de réfléchir avec l'enfant et il sort de la case avec un gros trait de peinture qui devient une rivière finalement. Et sur cette rivière avec une barque, il passe à travers toute son histoire à lui, pourquoi est-ce qu'il dessine ? Et en passant par son histoire, il passe par l'histoire du dessin qui est le qui aurait dessiné le premier dessin, pourquoi, et aussi l'histoire de son arrière-grand-père qui, pendant la guerre, en fait, ne pouvait plus écrire de lettres parce que celles qui étaient écrites n'étaient jamais celles qui arrivaient, et qui, du coup, pour parler à son fils, a fait un dessin. En fait, il lui a envoyé un dessin d'une cabane, Et à partir de tous ces éléments, il essaie de faire une espèce de petite étude hyper ludique et magnifique graphiquement sur pourquoi est-ce qu'on dessine. Et c'est génial, parce qu'il parle de la peinture, parce que le dessin rejoint la peinture forcément, de ses influences dans les peintres, mais aussi dans les auteurs de BD. Et il met notamment en scène deux auteurs de BD qui sont toujours vivants, qui sont Edmond Baudouin, qui a fait La balade de bébé robot avec Cédric Villani, par exemple, et François Bouc, qui a fait Bouncer avec Jodorowsky. Et en fait, il les fait parler aussi de pourquoi est-ce qu'eux dessinent. Et du coup, on a un propos qui est super, parce que même si on ne dessine pas, on a tous un jour fait un dessin, quand on était enfant, forcément. Et aujourd'hui, ça nous arrive de gribouiller. Et en fait, il arrive à mettre quelque chose...
C'est rare,
Il arrive à mettre quelque chose dessus, une espèce de sentiment qui a très presque à l'universel, c'est très profond et c'est génial. Et c'est vraiment un truc à lire, c'est une BD qui fait du bien parce que c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de lire et pour le coup ça marche. Vraiment, c'est de A à Z, ça marche très très bien.
C'était quoi son premier dessin alors ?
Il en met plein, mais il y en a un qui revient, c'est une espèce de gros mammouth éléphant immense avec des poils partout, d'ailleurs qui revient beaucoup dans la BD, et puis il le montre quand il l'a fait petit, et il le refait en étant adulte. Du coup, ça donne quelque chose de génial. Et c'est un truc qui serait une espèce d'esprit de la forêt, enfin, quelque chose de très présent qui le guide. C'est superbe.
C'est drôle parce que moi, mon premier dessin, c'est toujours le même aujourd'hui.
Et c'est quoi ?
C'est un bateau.
C'est
le seul truc
bien.
Que je sais faire.
Bah, c'est très bien.
Christophe Daniel, c'est à vous avec une auteure du Grand Nord. Ça, vous aimez bien.
Alors, un auteur du Grand Nord norvégien, Rune Christiansen. On le découvre aujourd'hui, nous, en France. Mais c'est quelqu'un qui a déjà écrit 9 romans en Norvège et aussi 12 recueils de poèmes.
D'accord.
Parce qu'avant d'être un romancier, c'est un poète. Et cette poésie, on la retrouve dans ce roman dont je vais vous parler, qui s'appelle Fanny et le mystère de la forêt en deuil. Une écriture très poétique, donc, et une poésie très visuelle. Donc dans ce roman, Rune Christiansen nous raconte la vie de Fanny. Fanny, elle a 17 ans, elle vient de perdre ses parents dans un accident de voiture, et elle a obtenu le droit de rester vivre toute seule dans la maison familiale. Maison familiale qui est dans un endroit isolé, près d'un petit village au fin fond de la Norvège. Autant vous dire que la vie de Fanny est assez tristounette, on va dire. Elle est donc sans voisins, sans amis, sans parents. Elle a un chemin assez incroyable entre bus, train, vélo pour se rendre à son école. Mmh. Et elle vit complètement coincée sous cette chape de chagrin. Et en fait, tout le roman, qui est en quelque sorte un roman d'apprentissage, va nous montrer comment Fanny va passer du deuil à cette... parce qu'elle a une rage de vivre énorme, et donc quitter ce deuil pour enfin prendre possession, se réapproprier sa propre existence. Elle va faire la connaissance de divers personnages, un pasteur, Tobias Alm, Janos, un jeune homme de sa classe dont elle tombe un peu amoureuse, et elle va finalement rencontrer Karen, mais je n'en dis pas plus.
Il y a de l'espoir,
c'est norvégien, c'est sombre et lumineux à la fois, c'est une sorte de voyage d'hiver norvégien, voilà.
Je rappelle donc Fanny et le mystère de la forêt en deuil de Rune Christiansen, traduction de Céline Roman-Monnier, c'est chez Notabilia. Et Rivière, au pluriel, Rivière d'encre pour vous, Thibaut Raden, c'est une bande dessinée. On retrouve ces livres dans vos librairies les respectives, La 25e heure à Paris et L'écriture à Vaucresson. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est libre. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
On vous retrouve pour votre conseil littérature jeunesse. Et aujourd'hui, c'est une BD intitulée Vermisseau de Gers et Pichelin.
Oui, je vous emmène dans l'univers des insectes. On suit les aventures de deux mouches, Mosca Merdito et Dorifor, deux jeunes mouches garçons, qui n'ont chacun qu'une chose en tête. Alors pour Mosca, le plus frêle et un peu le chef de ce duo, il faut le dire, lui ne pense qu'aux filles. Quant à son camarade Dory, beaucoup plus dodu et un poil bené, un seul leitmotiv dans la vie, la bouffe. avec un petit faible, un petit penchant bien sûr pour les bouses de vache.
Et qu'est-ce qui leur arrive à ces mouches?
Alors dans cette bande dessinée, il y a 5 histoires, plus une 6e fournie à part dans une mini BD en format poche. Et alors à chaque fois, ça tourne autour donc des stratagèmes de Dory pour dénicher un casse-croûte du meilleur fumé ou des techniques toujours plus foireuses les unes que les autres de Mosca pour draguer donc des mouches femelles. Comme dans cette histoire intitulée « Anna et le bourdon », Simon, Joachim et Justine, élèves en CM2 à l'école d'Enraymont à Paris, vous lisent le début de cette aventure.
Tu as l'air joyeux.
J'ai rendez-vous avec Sybille. Je lui ai proposé d'aller au bord de la rivière et de flirter avec moi. Et j'ai prévu de lui déclarer mon amour.
Tu as pris un goûter ?
Un goûter ? Mais pourquoi faire ?
Pour goûter, pardi. Tu sais pas que les filles, ça peut avoir faim à tout moment ?
Ah oui, mince ! J'avais pas pensé à ça.
Tiens, prends le mien, c'est une tarte aux pommes de...
Merci Doru, je te revaudrai ça. À plus tard. Mosca, mais qu'est-ce que tu fais là?
On avait rendez-vous.
Rendez-vous? Tu tombes mal.
Bonjour. Et la voix que vous entendez à la fin, c'est celle d'Anna, la fille d'une amie de Sybille. Mosca va devoir jouer les babysitters pour justement tenter de séduire la belle Sybille. Alors je vous raconte pas la suite, mais ça tourne pas vraiment, vraiment au succès pour Mosca.
Question rituelle, à partir de quel âge on peut lire cette BD?
Alors sans aucun problème, à partir de 8 ans, c'est extrêmement drôle. Le duo Gers et Pichelin, qui a travaillé notamment pour Fluide Glacial pendant plusieurs années, rend ces insectes aussi perfides, malsains et attachants que les humains. Dans cette BD, nos deux mouches sont également confrontées à d'autres insectes, des scarabées, des bourdons, des fourmis également. L'histoire nommée Anthropologie du peuple fourmi est à mourir de rire. Bref, vous l'aurez compris, j'adore cette bande dessinée. C'est même, Nicolas, mon premier gros, gros coup de cœur de ce début d'année 2020.
Carrément. Et là, on rappelle le titre, Vermisseau, de Gers et Pichelin. Et c'est aux chouettes éditions Les Requins Marteaux.
Exactement.
Merci Victor.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.